un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Alors on commence par vous, qui êtes-vous ?
Je suis Jean-Renald Demillot, je suis le directeur médical de l'équipe professionnelle de football de Troyes. J'assure également la direction de l'Institut médico-sportif. J'ai un passé d'athlète de haut niveau, j'ai également été entraîneur et bien évidemment médecin désormais. Ça me permet d'avoir une vision globale sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui.
Deuxième invité, même préambule, qui êtes-vous ?
Je suis Véronique Billat, professeure à l'Université d'Évry. Je dirige un laboratoire INSERM qui a pour objectif de modéliser l'entraînement humain pour arriver à un gain de performance maximale et surtout sans risque pour la santé, sur mesure pour chacun d'entre nous.
Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti.
Sport, la fin des records du monde. Est-ce qu'on est tous concernés par ces records du monde ? Moi, je dirais oui. J'en veux pour preuve que j'ai eu l'occasion d'accompagner un centenaire qui a réalisé 25 km dans l'heure à vélo. Et je pense que c'est un exemple des records du monde qu'il faut explorer davantage.
Je pense que de toute façon, chaque individu a son propre record. À mon avis, on est loin d'avoir atteint la fin des records puisque l'individu par lui-même évolue. L'évolution du genre humain fait qu'on aura de nouvelles perspectives physiologiques, notamment. En plus, je pense que le record du monde, c'est ce qui permet l'incertitude du sport, c'est ce qui permet aussi d'avoir un intérêt vis-à-vis de la population environnante, des spectateurs. Ça crée une immense activité autour du sport. S'il n'y a pas de record, tout ça, ça n'existe plus et on perd complètement l'intérêt vis-à-vis du sport. Je pense que le sport meurt s'il n'y a pas de record. Chaque individu a des limites, ça c'est une certitude, mais chaque individu ne connaît pas ses limites. On est autour des individus dans le cadre de la physiologie, de la médecine du sport, on est là pour la découvrir, pour découvrir ses limites, pour les évaluer. Après, bien évidemment, chaque individu rentre à partir du moment où il pratique une activité physique ou du sport de haut niveau, il a un processus d'entraînement qui lui est adapté, et c'est ce qui va lui faire avancer dans ses capacités. Ceci étant, jusqu'où un individu peut aller, je crois qu'aujourd'hui, personne n'est capable de le dire.
En tout cas, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis le début de siècle, quand on étudie l'entraînement des champions comme Zatopek, qui faisait 10 fois 400 mètres en 1:10, et qu'on regarde l'entraînement d'aujourd'hui actuel sur les stades, ce qui est curieux, c'est de voir que l'entraînement est le même. En gros, quand on va dans un club d'athlétisme, on fait 10 fois 200 mètres le mardi et 4 fois 1000 mètres le jeudi. Et enfin, je trouve qu'il y a un manque de curiosité de la part des entraîneurs et du monde sportif actuel pour l'innovation.
Oui, alors je précise même, et là je fais appel à certaines expériences, notamment en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'il y a un fossé entre le monde de l'entraînement et le monde, je dirais, physiologique, ou en tout cas de l'évaluation de la performance. Ceci étant, je crois que là où il y a le plus, je dirais, de modifications dans les fondements de l'entraînement, c'est dans les sports collectifs. Pourquoi ? Parce que les capacités physiologiques sont pas forcément aussi fondamentales que dans d'autres activités physiques et sportives. L'aspect tactique, l'aspect, je dirais presque, la politique de jeu qu'on peut mettre en place sur un terrain. Et donc, à ce titre-là, ça nécessite des qualités à développer chez les joueurs qui peuvent être différentes d'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Il n'y a qu'à regarder la vitesse de jeu entre France 1984 en football et France 98 ou encore maintenant. On a l'impression qu'en 84, ça joue au ralenti. Donc, c'est encore une fois, c'est non pas que les qualités physiques ont changé, mais les philosophies de jeu évolue, s'adapte dans un environnement concurrentiel, et à ce titre-là, on fait évoluer les corps humains vers ce qui nous semble pertinent.
En foot, actuellement, un milieu de terrain fait quand même 12 km par match, et un avant fait 7 km par match, et je pense qu'avant, effectivement, c'était à peu près les mêmes contraintes, mais la vitesse d'exécution n'était pas du tout la même. Quand on teste, notre laboratoire va sur le terrain, on teste des joueurs de foot donc professionnelle, et on s'aperçoit quand même qu'il y a des niveaux de consommation d'oxygène qui sont requis pour pouvoir accomplir ce travail qui va de 4 à l'heure dans un match jusqu'à 32 km/h, avec une moyenne quand même autour de 16 km/h.
Nous, ce que l'on constate sur les terrains, c'est que si, je dirais, quantitativement, la distance parcourue globale moyenne par un match évolue, je dirais, relativement peu à travers les ans, la façon avec laquelle on parcourt cette distance évolue considérablement. Aujourd'hui, on est dans des phases de jeu où, quand on regarde, non pas le porteur du ballon, mais quand on regarde les joueurs qui n'ont pas le ballon, qu'est-ce que l'on voit ? On voit essentiellement des joueurs qui marchent. Par contre, à partir du moment où ils rentrent dans les actions de jeu, ils courent vite, très fort, très puissant, avec des périodes de récupération qui sont relativement courtes. Donc on est dans des enchaînements, je dirais, de phases de jeu où l'intensité augmente, mais avec des périodes de récupération courtes et répétées. Et on n'avait pas forcément ça il y a encore 15 ans, 20 ans, ou en tout cas beaucoup moins. C'est vrai qu'à ce titre-là, on recrute à l'heure actuelle des joueurs qui ont des qualités à la base de vitesse et de puissance musculaire relativement élevées, parce qu'on sait que c'est quand même les qualités qui sont difficilement améliorables. Il y a une composante génétique qui est non négligeable. Et sur cette base-là, on va faire en sorte de développer les facultés aérobies, c'est-à-dire leur capacité à évoluer en milieu d'oxygénation maximale, et donc de développer leur consommation maximale d'oxygène, puisque ce sont des qualités dont on a besoin sur le terrain, certes, mais qui sont plus facilement améliorables que les composantes dont j'ai parlé auparavant.
Alors, en fait, ce que je dirais, c'est qu'on a découvert récemment que, plus que les qualités de vitesse, ce qui est important pour les records, ces records à soi et dans l'absolu ceux de l'espèce humaine, c'est l'accélération. Et les records se battent si on est capable d'augmenter la vitesse, réduire la vitesse, donc de passer d'un mode de production d'énergie avec oxygène, on va aller faire des incursions dans des vitesses élevées, où on va peut-être dépasser nos possibilités de consommation d'oxygène, on va faire appel à un mécanisme énergétique de secours qu'on a ancestralement développé pour fuir devant l'ennemi, la bête furieuse, etc. Mais là, on n'utilise pas d'oxygène, mais on produit beaucoup de gaz carbonique, beaucoup d'acide lactique, et on va avoir une acidification du sang qui va faire qu'on ne va pas pouvoir tenir longtemps à ce régime-là. On l'a tous vécu en rattrapant le bus, en voulant faire un petit peu, je dirais, frimer devant les copains, accélérer à vélo au sommet d'une côte. Qu'à un moment donné, les joues nous brûlent, on est en train d'hyperventiler, on est essoufflé et on est obligé de ralentir. Bon, ça, parce qu'on est passé dans un mode de production énergétique sans oxygène. Mais pour autant, ça nous permet, ce mode-là, d'augmenter nos vitesses moyennes de déplacement, à condition de pouvoir après récupérer, réoxygéner, et c'est un moyen d'aller plus vite à un moment donné, d'augmenter notre vitesse moyenne. Et les records passent par ces vaguelettes de vitesse, donc une capacité d'accélération, c'est ce qui va faire la différence entre un champion et un non-champion. Donc c'est pour ça que ça doit déboucher, ce constat, sur des formes d'entraînement très nouvelles, utilisant cette accélération.
Je suis tout à fait d'accord. On est obligé de regarder maintenant comment les athlètes se déplacent. Donc on fait appel à de la biomécanique. On a parlé un petit peu on utilise les sucres, on utilise les graisses. Ça veut dire qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on utilise comme carburant pour l'être humain. Donc on fait appel à la nutrition. Après, il y a quelque chose qui se développe, et encore, je pense qu'on a encore beaucoup de mal à savoir comment utiliser, c'est l'aspect mental. Comment joue le mental dans le cadre du développement de la performance ? Donc aujourd'hui, on est obligé, dans le monde du sport, d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire, d'avoir une vision globale de la performance pour aboutir à l'excellence. Et peut-être que là, on touchera la notion de quelles sont les limites. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'a absolument pas coordonné l'ensemble de nos connaissances et de nos moyens autour de la performance pour avoir cette vision globale. Donc je pense que là, il y a encore un gros travail.
C'est parce que dans nos fonctionnements académiques, universitaires, production de la connaissance, on raisonne par discipline. Moi, je travaille avec une perspective de résoudre des problèmes qui concernent la mise au point d'entraînement. Donc, ma problématique, c'est l'exercice. Comment doser l'exercice pour battre ses records, les records. Et l'exercice, je l'aborde en utilisant des outils de la biomécanique, mathématiques même, parce que je modélise les variations de vitesse optimales On est maintenant capable, en fonction des spécificités de chacun, de lui dire, de lui donner un tableau de marche, lui dire, OK, là, tu vas faire ton marathon, ta course en balayant telle ou telle vitesse sur telle ou telle séquence de temps. Donc, et ça, c'est un... Parce que j'ai un laboratoire qui utilise, donc, même jusqu'à la génétique, j'ai un laboratoire de souris. C'est-à-dire que quand je constate qu'un entraînement fonctionne chez l'homme, je fais l'inverse de ce que font la plupart des labos, je pars de l'homme pour aller sur la souris et regarde l'efficacité de notre entraînement sur la santé de nos souris jusqu'au gène. Donc, c'est-à-dire que moi, je prends un problème qui est celui de la mise au point de l'entraînement, je dirais, optimal, avec une approche pluridisciplinaire. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à faire accepter cette nouvelle façon de voir les choses et de les traiter dans une institution de production de connaissances académique.
Et c'est là où, en fait, il y a une problématique, c'est que, à un moment donné, les idées, les concepts que vous pouvez développer, il faut qu'on arrive à les transférer très rapidement sur le terrain. Parce que n'oublions jamais, et ça, il y a malheureusement souvent beaucoup de monde qui l'oublie, n'oublions jamais que l'activité sportive, le sport, ça se déroule sur un terrain, sur une piste d'athlétisme, et pas dans un laboratoire.
Alors là, on aborde une question importante, c'est qu'on doit mettre au point les techniques qui vont nous permettre de sortir du labo pour aller sur le terrain. Depuis 20 ans, je miniaturise des appareils, les mêmes que j'ai en labo, comme un ordinateur fixe qui est devenu un tout petit portable. J'ai mis au point, c'est avec des entreprises, des PME, des industries de haute technologie, des appareils qui permettent d'aller sur le terrain. Hier, on a fait une épreuve de cyclo-sportive de 90 km. J'ai accompagné un papy de 101 ans pour pouvoir confirmer les données que j'avais vues en laboratoire sur le terrain, sur le vélo. Et on était dans un col à 5%. J'ai pu constater qu'il développait 140 watts. Ça confirmait le fait qu'il avait une consommation d'oxygène dont on parlait tout à l'heure, qui était le double de ce qui était prédit quand on fait des projections à cet âge-là. Ce qui laisse supposer que l'être humain a un potentiel énergétique qui est le double de ce que l'on pense actuellement. Donc l'explosion des records de notre espèce passe aussi par la possibilité d'allonger la carrière des sportifs. Si socialement on admet que le sport est un métier, qu'on peut l'exercer en toute sécurité jusqu'à l'âge de 50 ans et qu'on a une après-carrière qui nous attend, c'est-à-dire une formation à la base qui va nous permettre de nous reconvertir, eh bien, on va pouvoir exploser le record de l'être humain parce qu'on se laissera plus de temps pour le faire.
C'est une grande question qui, à mon avis, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de réponse parce que on est dans un univers où, en tout cas, il y a une certaine réglementation. Cette réglementation, on doit la respecter. Certes, ceci étant, comme toute réglementation, elle peut évoluer, elle doit en tout cas s'adapter. Est-ce que l'on dit aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas forcément ce qu'on dit demain.
Alors moi, je dirais que, attention, les limites qu'on a actuellement, elles sont entièrement économiques. Parce que pourquoi on s'intéresse au dopage, on va dire les choses, du sportif, alors qu'on ne s'intéresse pas à celle de notre profession de chercheur. Je suis désolée pour tenir le rythme qu'on tient de 70 heures par semaine pour pouvoir faire fonctionner un laboratoire actuellement. Il faut quelque part peut-être être dopé, on n'en sait rien. Je vous pose la question, pourquoi on s'intéresse au dopage, on contrôle les sportifs ?
Alors, je vais même plus loin. Moi, je trouve totalement anormal que le sportif de haut niveau doit être quelqu'un blanc comme une hirondelle, alors qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir l'évolution de la société dans sa globalité. Il y a pléthore de façons, ou en tout cas de publicités, qui nous incitent d'une façon ou d'une autre, appelons un chat, à optimiser, à augmenter nos performances, qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elles soient d'ordre mental, qu'elles soient d'ordre sexuel, il y en a absolument partout. Je ne vois pas à ce titre pourquoi le sportif serait le seul à devoir échapper à cette politique.
D'ailleurs, on a changé la définition du dopage. Maintenant, c'est toute substance permettant d'augmenter la performance artificiellement. Avant, c'était nuisible à la santé. En fait, on ne s'intéresse pas à la santé, on s'intéresse à la glorieuse incertitude du sport, et surtout, s'il y a cette incertitude, c'est vendeur. Avec, en plus, la flambée des paris en ligne sur Internet, y compris dans le foot maintenant, qui concurrence les canassons, il n'est pas question maintenant de penser que le jeu est truqué.
Oui, je suis complètement d'accord. Ceci étant, on a encore une partie de la population qui est un petit peu crédule par rapport à tout ça. En tout cas, qui croit encore que le sportif, ou en tout cas la performance sportive, doit être belle au sens philosophique du terme. Elle doit être pure. Je crois que c'est un débat d'un autre temps. On est aujourd'hui dans un monde moderne avec des contraintes, on l'a dit tout à l'heure, économiques. On a des contraintes de sponsors. On a des contraintes, de structure d'entraînement. On a des contraintes de transfert, pour parler du football, mais c'est vrai dans d'autres sports. Tout ceci amène, à des nouveaux leviers dans le cadre de qu'est-ce que je dois faire ou pas, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas dans le cadre de l'évolution du sport et de sa réglementation.
Ce qu'il faudrait, c'est que déjà, un footballeur qui est soumis à 52 matchs par an, si on compte les coupes, les championnats, etc., puisse en faire deux fois moins. Pareil dans le vélo, les jours de course sont très importants. Quelque part, il faut s'interroger de savoir laisser récupérer des sportifs et pour ça, avoir un panel de sportifs professionnels plus important pour pouvoir jouer sur le jeu des remplacements. Et pour ça, c'est effectivement organiser le sport pour pouvoir donner la chance à plus de sportifs de venir à haut niveau dans de bonnes conditions. Et plutôt que des béquilles chimiques, avoir des solutions à apporter aux sportifs pour qu'ils s'améliorent sans produits dopants. Donc je pense qu'il est permis d'avoir l'audace d'essayer d'autres façons de s'entraîner que nous avons mis au point dans nos laboratoires. Et pour ça, il faut faire rompre les barrières science et pratique. Et le moyen de faire cela, c'est effectivement un travail de vulgarisation scientifique sur ce que l'on est capable de proposer en termes de solutions d'entraînement. On a beaucoup de moyens de s'entraîner innovantes qu'on a proposés à des sportifs qui viennent nous voir, qui fonctionnent et qui restent inconnus, parce que les médias ne s'intéressent pas vraiment à ça, ils s'intéressent surtout au spectacle.
Alors, je suis complètement d'accord avec vous que le développement de nouvelles méthodologies d'entraînement peuvent avoir un intérêt, pour orienter le sportif vers une pratique plus saine que vers une pratique qui va dériver vers l'utilisation des produits dopants. Bon, ça, je suis d'accord. Ceci étant, je ne suis pas certain que ça soit le premier levier à exploiter pour gérer la notion de dopage. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'interpelle et je suis complètement mais furieux par rapport à ça. Il faut quand même savoir que si on a une agence mondiale antidopage, comment se fait-il qu'entre les sports, on n'a pas la même façon de définir les protocoles de contrôle antidopage ? Comment se fait-il que dans le cyclisme, la façon dont on gère le dopage, ou en tout cas qu'on essaye de détecter, etc., etc., n'est pas identique que dans le milieu de l'athlétisme ? Je trouve pas ça normal. Dans le cyclisme, on a un profil biologique qui peut amener à des suspicions, et sans contrôle positif, on va mettre, en tout cas, le cycliste, entre guillemets, au repos forcé. Bon, dans l'athlétisme, si on n'est pas positif, on n'est pas dopé. Moi, je ne comprends pas. Et tant qu'on n'aura pas une harmonisation globale, mondiale, alors là, je pense que c'est le gros souci, c'est comment avoir quelque chose de global et mondial. Tant qu'on n'aura pas cette vision globale du contrôle antidopage, eh bien, en fait, on aura des distorsions de concurrence entre les sports, entre les pays, ça générera une dérive.
La solution ne passe pas par le contrôle antidopage.
Je ne parle pas du contrôle, je parle de l'harmonie.
Ouais, j'ai compris,
on n'a pas d'harmonie.
Oui, mais je pense qu'il vaut mieux voir les choses, aborder les choses par le côté plus que par le côté moins de dopage. Je dirais plus d'entraînement efficace et raisonné, adapté à chacun, personnalisé, plutôt que de dire moins de dopage. Et je pense que quand les gens vont voir que s'entraîner de telle façon personnalisée, adapté, que ça donne de la réussite, à la limite, le dopage va tomber de lui-même. C'est plutôt comme une éducation de quelqu'un. Soit on commence à parler d'interdit, soit on est dans le positif, on suscite de l'intérêt pour quelque chose qui, de fait, va lui baisser son intérêt pour l'interdit.
Je suis complètement d'accord avec votre vision à l'échelon, entre guillemets, national. Mais quand on voit ça à l'échelon international, je pense, malheureusement, je pense malheureusement que cette réflexion ne peut pas tenir. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui veut accéder au très haut niveau, à partir du moment où on est dans un concept organisationnel où justement on veut aller vite au niveau, et parce qu'on sait que la carrière va être courte, hein, à cause des de l'environnement sociétal dans lequel se trouve le sportif, on a une distorsion de concurrence entre un pays qui va dire « ça on a le droit, ça on n'a pas le droit » et un autre pays qui le permet.
Alors,
l'appétence pour la nouvelle méthodologie d'entraînement, elle est diminuée puisqu'il y a des choses qu'on a le droit de faire ailleurs.
Alors moi, je dirais que par analogie avec le monde économique où on est en concurrence avec des pays qui payent... Là, on parle, je dirais, de payer 3-4 fois moins les gens. Je dirais, faisons autrement. Je dirais, là, encore une fois, le sport de haut niveau est un laboratoire des activités humaines et économiques. Montrons qu'il est possible de faire autrement, de produire un record autrement que sur un mode, je dirais, stakhanoviste, avec des moyens illicites ou contrôlés, ou, je dirais... Nous, on peut faire autrement, avec de l'entraînement intelligent.
D'accord. Alors maintenant, je vais être provocateur.
Allons-y.
Exprès, pour justement qu'on puisse avancer sur peut-être une autre vision qui va peut-être choquer. Mettons de côté un certain nombre d'éthiques qui, parfois, je trouve, sont mal utilisées. Qu'est-ce qui nous empêcherait ? En quoi ça serait négatif d'avoir un sport... un sport pour tous qui amène la santé, des très bonnes choses pour l'individu, et un sport où on accepterait clairement les méthodes de dopage. Pourquoi on devrait refuser cet aspect-là ? Si ce dopage, alors je vais encore peut-être choquer beaucoup de confrères, si ce dopage est, je dirais, encadré pour justement éviter les problématiques de santé extrêmes. Pourquoi on ne pourrait pas envisager ce type d'activité ? Moi, je considère que ça pourrait être une solution. Alors attention, une solution intellectuelle, je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein. C'est une approche intellectuelle qui doit, à mon avis, être menée. Parce que moi, je n'oublie pas quand même quelque part, en matière de connaissances sur la physiologie du sport... l'ex-Allemagne de l'Est et l'ex-Union soviétique nous a amené beaucoup de données. Bon.
Moi, je serais assez pour. Je suis assez joueuse, moi aussi, je dirais, dans les limites de la santé. Mais moi, je suis pas médecin.
D'où un encadrement.
Je vous retourne la question.
Alors après, justement, ça pose le problème de l'éthique et notamment de la déontologie médicale.
Je suis d'accord, on va démontrer. Et moi, je suis assez joueuse, on va démontrer que... Un dopage dans les limites de la santé ne va pas améliorer la performance par rapport à un entraînement intelligent, encore une fois. Si on mettait les mêmes moyens financiers à la mise au point d'entraînement intelligent, je dirais sans produit adjuvant, qu'on en met dans la mise au point du dopage... Je pense qu'on serait largement, nous,
certes,
mais en tête.
Je vais encore une fois vous taquiner, mais ça veut dire que moi, demain, si je gère un sportif de très haut niveau et que je veux que celui-ci soit champion olympique, champion du monde ou je ne sais pas trop quoi, ou gagner la Coupe du Monde, et que je n'ai pas de limite, j'irai vers vous, non seulement pour avoir une méthode de l'entraînement originale, performante et individualisée, et en plus, j'irai vers les méthodes de pente. Et là, on pourra accéder à des performances extraordinaires.
Alors, je vous rassure, il y a des sportifs qui l'ont fait, qui sont venus me voir et qui ont continué à utiliser leur méthode de dopage, à savoir EPO plus testostérone plus anabolisant chez une femme marathonienne, par exemple.
Ceci étant, il y a quand même une autre problématique qui est en train de survenir à côté du dopage, je dirais, chimique. C'est un dopage qui est lié à la manipulation génétique. À la biotechnologie, où là, ça pose, à mon sens, encore plus de soucis, parce qu'on est vraiment dans la manipulation du gène humain pour augmenter la performance, pour augmenter la résistance aux contraintes. Et là, je dirais... c'est une vision toute personnelle, mais je trouve qu'on touche au fondement même de l'individu, à savoir son ADN. Et ça, c'est quelque chose... qui me perturbe, Parce que autant la béquille chimique, bon, on injecte des produits, quels qu'ils soient, ou on ingère des produits qui sont plus ou moins connus. Dans la plupart du temps, ils sont connus, puisqu'ils sont utilisés dans certaines thérapeutiques. Dans la manipulation génétique, à mon sens, là, on est vraiment dans l'apprenti sorcier.
Oui, mais on n'a pas trouvé le gène de la performance, y compris de l'endurance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait un gène des antioxydants. Et quand on sait que l'exercice bien dosé permet, je dirais, de stimuler ces antioxydants de façon adaptative et physiologique, sans avoir besoin de manipuler un gène, quoi que ce soit, à la limite, encore une fois, un entraînement intelligent peut remplacer la manipulation génétique, puisque on modifie la génétique de l'animal, nous on l'a vu sur nos souris, en s'entraînant de telle ou telle façon. Donc c'est pas parce qu'on aborde le mot génétique qu'on va dans les choses complètement différentes de la physiologie, puisque les deux sont complètement liés.
Certes, sauf que je dirais qu'à l'heure actuelle, autant un médicament qu'on va utiliser dans le cadre d'un processus de dopage, c'est quelque chose qui est connu au niveau moléculaire, on connaît les impacts, plus ou moins, on connaît les effets à plus ou moins long terme de cette molécule sur l'organisme. Faire des modifications génétiques, qu'est-ce qui se passera dans 5, 10, 15 ans, 20 ans pour la personne? Je pense que là, on aura beaucoup plus de mal. Je pense qu'on peut très bien avoir une vision où on aura un sport à deux vitesses. Pourquoi pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un sport pour tous, c'est un sport de top niveau qui va utiliser... On l'a déjà, je dirais presque à petite échelle. Ou alors, on aurait un sport où tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Je pense qu'un peu le pays de oui-oui, j'y crois pas du tout.
Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de ce dopage, encore une fois. Actuellement, on est capable d'améliorer les consommations d'oxygène, donc de puissance énergétique, de 20% en 20 séances d'entraînement, y compris chez les sportifs de haut niveau. Mais le problème, c'est qu'il y a une réticence à la nouveauté. Voilà, on est dans l'urgence, on est dans l'obscurantisme, parce que le mode organisationnel du sport actuellement, c'est que c'est les anciens champions qui deviennent entraîneurs. Il y a un cloisonnement. Moi, j'essaye de faire de la formation continue. Mais quelque part, ça fait mal de se remettre en question. C'est douloureux, ça coûte du temps. On est dans un mode pressé. Être entraîneur, c'est un métier. Donc ça demande des compétences. Donc pour cela, si on veut exploser les records du monde, il faut réconcilier tous les modes de production d'énergie. Ne pas dire le marathon, c'est l'endurance, c'est l'oxygénation. La vitesse, c'est la force, c'est la puissance. Il faut tout envisager et ça demande de la connaissance. Une vraie formation, je dirais, un peu scientifique de base, avoir quelques notions que, actuellement, les entraîneurs n'ont pas.
Alors, pour compléter un petit peu ce que vous dites, je crois que si nous n'arrivons pas à mettre en place une harmonisation globale mondiale sur la gestion, sur la définition de l'activité physique, si on n'arrive pas à mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire du sportif, si on n'arrive pas à faire ce lien entre les sciences du sport et les entraîneurs de terrain, s'il n'y a pas cette communication qui s'installe, là, malheureusement, à mon très grand regret, c'est la méconnaissance, c'est l'obscurantisme, et on aboutira de plus en plus vers des méthodes de dopage qui deviendront de plus en plus complexes et de plus en plus, je dirais, non contrôlées. Par contre, et là je rebondis sur quelque chose que je vis au quotidien, force est de constater que c'est dans le sport professionnel où on a des staffs extrêmement développés, où on a le moins de risques de voir arriver des dérives dopantes. Pourquoi ? Parce que comment s'articule par exemple une équipe de football professionnelle? Alors je vous donne un exemple par rapport à ce que je vis. Vous avez une trentaine de joueurs professionnels à encadrer. Vous avez un staff technique. Un staff technique, ça veut dire quoi? Vous avez ce qu'on appelle communiquement un entraîneur. Mais l'entraîneur, c'est quoi son job? Son job, c'est un job de patron d'entreprise. C'est un job de RH. Il organise, il met en place une politique, une vision pour son équipe. Après, il a un entraîneur adjoint. Lui, c'est quoi son travail? C'est de penser les structures d'entraînement, c'est de penser les contenus d'entraînement, et c'est de mettre en place pour les joueurs ces contenus d'entraînement, en sachant que ces contenus d'entraînement vont être en correspondance avec la politique du manager. À côté de ça, vous avez des assistants techniques qui vont décortiquer, qui vont analyser les matchs, qui vont combien de kilomètres a fait tel ou tel joueur, etc. etc. Voilà, ça va être un fournisseur de données.
En foot, c'est parfaitement organisé, je suis entièrement d'accord. J'ai des étudiants en thèse chez moi qui sont devenus entraîneurs.
Et c'est là où je pense que la structuration des staffs techniques doit sortir uniquement du monde footballistique ou du rugby, parce que le rugby est également très bien organisé, pour aller vers le sport individuel. Moi, ce qui me fait peur, c'est justement le sport individuel, parce que par définition, on est tout seul.
Complètement.
Tout seul égale obscurantisme, obscurantisme égale dopage.
Alors, moi, je pense qu'une des solutions, ce serait de faire effectivement ce qui est envisagé actuellement, de créer un institut national des sports pour tous, ou lié un accueil pour le Quidam dans sa pratique, pour lui apprendre à gérer sa pratique de façon intelligente, avec des tests, créer un environnement autour de Monsieur Tout-le-Monde, puisque le Monsieur Tout-le-Monde est quand même la personne qui va, à un moment donné, faire naître un sportif professionnel. Et il faut que la culture du sport, dans toutes ses dimensions, soit déjà inscrite à la maison. Donc ça, il faudrait qu'on inscrive déjà cette pratique du sport individuel très tôt dans l'enfance, dans l'école.
Ça fait partie de l'apprentissage.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut organiser cette pratique de haut niveau dès le plus jeune âge, dans la famille et à l'école. Et créer l'Institut national des sports pour tous et de loisirs, avec de la recherche dans ce domaine, c'est, le terreau, le berceau de l'explosion des records du monde, de l'espèce humaine en général.
Alors, ça nous permet, à ce titre-là, de voir éventuellement deux évolutions possibles du sport demain. Une évolution, plutôt négative à mon sens, où en fait, cette production de connaissances n'aura pas lieu, ce transfert de compétences, il ne se fera pas, c'est-à-dire qu'on restera, un petit peu dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc chacun garde sa connaissance, et à ce titre-là, on aura un obscurantisme qui va se développer de plus en plus, et donc des dérives dopantes, notamment qu'elles soient d'ordre chimique, technologique, génétique, biotechnologique, et là, on rentrera malheureusement, je pense, dans une ère noire pour l'activité physique, à long terme, soit on arrive à se coordonner tous ensemble, que chacun ait un niveau de compétence et surtout une faculté, une capacité à échanger avec son voisin en matière de connaissances. Et à ce titre-là, à partir du moment où le savoir va s'installer chez tous les interlocuteurs qui gravitent autour du sport, on aura une synergie, on arrivera à optimiser la prise en charge et donc on aura un sport organisé, harmonisé, avec des gens compétents qui pourront échanger. Et à ce titre-là, le savoir permettra de ne plus avoir besoin de méthodes, de dérives, de types de dopantes.
Ce débat présent, là, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à débattre avec vous. On a un exemple, vous êtes médecin, je suis scientifique. On a en commun d'avoir été sportifs tous les deux à un bon niveau. On a pu se parler alors que moi, j'ai beaucoup de mal à faire venir des médecins dans mon laboratoire.
Bon, on va travailler ensemble, alors.
Pourquoi pas? Avec plaisir.
C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. Deux invités dans ce même plateau, rien que pour eux.